Merci donc à Hautefort, notre patrimoine, de m'inviter. Merci à Daniel Pondy, à Michel, Eliane. C'est beaucoup d'émotion pour moi de vous parler ce soir. C'est vrai que je fais des conférences en France, à l'étranger, mais c'est peut-être la plus importante de ma vie, puisqu'il y a bientôt 30 ans, ici, je me mariais au même endroit, d'où la cravate. Voilà. Et pour vous aussi, mettre la cravate, parce qu'il n'y a pas de raison de mettre des cravates ailleurs et de ne pas mettre une cravate dans ce haut lieu. Voilà, donc j'ajoute que ici, Grangedance, c'est un lieu pour moi très important depuis très longtemps. Il y a marqué dans presque tous mes livres, Grangedance, le temps, depuis des années. Donc je viens me réfugier ici, écrire tout seul dans une petite maison, un peu comme Descartes dans son poêle. Il se trouve que j'ai fait des conférences sur Maître de Biran à Paris il n'y a pas très longtemps, c'est pour ça que je pensais, voilà, conférence s'appelle Spiritualisme et Phénoménologie. Bon, j'ai fait 12 heures de conférences, donc ça fait beaucoup, ça ne va pas vous arriver, vous inquiétez pas. Mais j'ai découvert ce Maître de Biran, qui est un auteur absolument incroyable, qui était donc au nord de Bergerac, sur la commune de Saint-Sauveur. Et je vais vous présenter ce personnage, à la fois dans son caractère, son trait historique, dans sa personnalité, et nous allons faire aussi la philosophie. Donc je ne renonce pas à ce que nous fassions de la philosophie. J'ajoute juste un point pour la philosophie. Il suffit de 5 minutes pour comprendre. Il faut au moins 3 ans pour redire et il faut 10 ans pour dire. Voilà. Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas redire ce que j'ai raconté, au moins pour la partie philosophique, que vous n'avez pas compris. Voilà. Quand dire aux enfants qu'il faut qu'ils puissent redire leur leçon, sinon ils n'ont pas compris, c'est totalement faux. On peut très bien comprendre sans redire parce qu'on n'a pas les outils pour le dire ou le redire. Je commence en lisant un texte que j'ai écrit donc ici, Grangedance, le 28 janvier 2023, texte qui ouvrira mon livre sur Maître de Biran, qui paraîtra l'année prochaine. Voilà ce que j'ai écrit dans la petite maison, à 3 km d'ici, au mois de janvier. Certaines descentes en soi se font à l'intime de soi. Oui, Maître de Biran habitait un château qui s'appelait Gratteloup. Hein. Certaines descentes en soi se font à l'intime de soi. Et il est des lieux où l'on se tient dans son poêle, bien loin de toute agitation et de toute préoccupation. Quoi de mieux que de rédiger au cœur du Périgord des conférences et un ouvrage sur celui qui fut sous-préfet de Bergerac, puis député de Dordogne. Si près, si loin. Ou plutôt, à quelques encablures de distance, on le ferait en moins de 3 heures en diligence. Grangedance, Gratteloup. Depuis bien des années réfugié à Grangedance, on peut s'y tenir et y demeurer pour penser. À l'instar de Maine de Biran, 2 siècles plus tôt, la vie est diastole-systole entre la province et Paris. Pas d'aller sans retour, ni d'Iliade sans Odyssée. On quitte certes avec envie le soi, en revenant aux affaires mondaines, ce que ne cessera de faire Maine de Biran. Mais l'on sait que c'est avec bonheur, mais aussi dans la douleur, qu'il faudra revenir et parfois oser entrer en solitude, là où s'accomplit tout véritable travail de pensée et où se nourrit en sus toute spiritualité. Je vais souvent citer le journal de Maine de Biran qu'on a trouvé 20 ans après sa mort. Maine de Biran écrit dans son journal, que personne n'aurait dû retrouver, qui était retrouvé dans un carton dans un grenier, 12 mars 1815. Journée pluvieuse à Gratteloup. J'étais tranquillement établi dans mon cabinet solitaire, relisant des manuscrits métaphysiques, lorsque je fus interrompu à 3 heures par la réception d'un courrier de Paris. Heureusement, ça n'arrive pas à Grangedance, je coupe le téléphone. J'achève une note que j'avais commencée et j'ouvre ensuite une lettre qui m'apprend que Bonaparte est en France, que les chambres sont convoquées et que je dois me rendre tout de suite à mon poste. À l'instant, il se fait une révolution dans tout mon être. Je passe rapidement du calme le plus profond à l'agitation la plus vive. Ma tête s'égare, mon estomac se ferme, je dîne à la hâte et j'ordonne mes préparatifs de départ pour le lendemain. Journal qui me permettra de vous dire un peu qui était ce Maître de Biran. Un homme en réalité très craintif. Un homme mondain qui allait de la province à Paris, très content quand il était à Paris, mais voulant revenir en province, très content quand il était en province, mais voulant revenir à Paris. Jamais satisfait. Nous le verrons à quel point, puisque Je vous le dis tout de suite, il a publié de son vivant 3 petits textes. Et aujourd'hui, les œuvres de Maine de Biran, c'est 20 volumes, dont la plus grande édition française aux éditions Vrin. Maine de Biran est étudié à Cambridge, étudié à Oxford, à New York. J'étais à Montréal, là. Il y avait un étudiant qui travaillait sur Maine de Biran. Donc Maine de Biran, du château de Gratteloup de Bergerac, est absolument internationalement connu. En particulier, je vous le dis quand même, certains connaissent les noms, Paul Ricoeur a beaucoup parlé de Maine de Biran, Michel Henry, Henri Gouillet, enfin voilà, beaucoup de philosophes contemporains se sont intéressés à Maine de Biran, Victor Cousin avant tout, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Voilà ce qu'écrit encore Maine de Biran dans son journal. Gratteloup, le 1er mai 1815. Je me laisse troubler par une multitude de choses et de personnes. L'état craintif quand je suis dans le monde est mon état habituel. Cette disposition ne change pas en avançant en âge. J'en ai fait l'épreuve hier, 1er mai, sortant de chez M. Coudert à Bergerac et rencontrant sur la place des ennemis connus, dans les petites villes, des ennemis connus, j'aime bien la formule, tout mon sang s'est retiré vers le cœur, un grand trouble s'est emparé de mes facultés. Ici, il faut savoir se contenter du repos, de la vie champêtre, et savoir se passer de l'éclat, du bruit, des impressions vives et de tout ce qui constitue le charme de la vie extérieure. Il n'y a plus de poésie, plus d'amour dans mon existence. La raison en est que les réflexions sont les seules mobiles. L'homme solitaire, écoutez bien, c'est sa thèse, l'homme solitaire a besoin de trouver en lui et dans le sentiment intime de tout ce qui tient lieu du mouvement extérieur qui lui manque. Dans le silence de la retraite, je partage ça avec Maine de Biran. Rien ne me semble plus triste et misérable que l'esprit du monde et toutes ses vaines agitations. Troisième passage. Note du 17 mars 1816. Je vous signale que ce journal, un volume, deux volumes, trois volumes, édités par Henri Gouillet, ont été retrouvés dans un carton. Dans un carton par qui ? Par le fils de Félix de Biran, ou plutôt par Ernest Naville. Ernest Naville qui était le fils de Félix Naville. Félix Naville qui était un pasteur protestant, qui s'intéressait à Maine de Biran, parce que Maine de Biran enseignait le vendredi à Paris, et qu'on a appris que Maine de Biran écrivait beaucoup. Mais Maine de Biran ne finissait jamais ses livres. Il prenait les concours. Donc, il a écrit de son vivant une note à M. Lamergonnière. Les essais de psychologie, c'est le premier qu'il a bien voulu publier, et il a publié de son vivant une note sur Leibniz. Total, 300 pages. Donc aujourd'hui, nous avons 20 volumes aux éditions Vrin. Je peux vous lire, écrit de jeunesse, influence sur l'habitude des services de pensée, mémoire sur la décomposition de la pensée, de la perception immédiate, discours, on va en parler, à la Société médicale de Bergerac, qu'il a fondée lui-même. Je signale ce discours, Société médicale de Bergerac, ils se réuniront, médecins, chirurgiens et officiers de santé, réunis chez le pharmacien Gardet. Alors, j'ai tapé sur Internet « Pharmacie Gardet Bergerac », il n'y a plus. Hein. Mais bon, alors, je me suis dit, on ne sait jamais. Hein. Bon, « Pharmacien Gardet », il n'y a plus. Voilà, donc de très, très nombreux ouvrages, des commentaires sur Descartes, sur Locke, sur Leibniz. Et il se trouve que cet été, donc, puisque je savais que je faisais des conférences au Maine de Biran, je voulais absolument aller au château de Gratteloup. Ce n'est pas possible, je ne vais pas ne pas aller au château de Gratteloup. Alors, j'essaie d'aller au château de Gratteloup, j'écris, pas d'adresse, pas de téléphone, rien à faire. Donc, j'écris un mail à le vigneron qui est à côté, le domaine Vieille Terre Pécharmont, et ils ne me répondent pas non plus. Et donc, quand j'arrive à Grangedan, je me dis, non, c'est pas possible, ça fait 2 mois que j'essaie. Il faut que je fasse au château, parce qu'il n'arrête pas de parler du château, il n'arrête pas de parler de ce qui se passe, la Dordogne, bon. Et donc, je finis par dire à la vigneronne, mais allez voir ce monsieur. Donc, elle va voir ce monsieur. Ce monsieur me téléphone. Et donc, j'ai fait une visite au château de Gratteloup pendant 3 heures l'été dernier. J'ai pu passer des photos, d'ailleurs, à mes étudiants. C'est un château qu'on ne peut pas visiter, mais dont le successeur, il ne dit pas trop château, il dit voilà, mais dont le successeur fait visiter le château aux Biraniens. Donc, il y a de lettres de nombreux Biraniens et tout cela était très émouvant. Et il se trouve qu'en visitant la demeure, où il y a d'ailleurs le portrait de Maine de Biran qui est ici, mais l'original du portrait, il y a sa bibliothèque avec tous ses livres, et puis j'ai ouvert un livre, donc on a ouvert avec la clé, un livre en latin de Leibniz, et en ouvrant le livre, je suis tombé sur un manuscrit de Maine de Biran. Il ne savait pas qu'il était dedans, Pour vous dire à quel point Maître de Biran, écrit partout. Bon, maintenant, les manuscrits sont à la Bibliothèque nationale, tout ça est très bien gardé. Mais voilà, c'est quelqu'un qui écrivait tout le temps. Alors, je vous lis un dernier passage pour dire qui est cet homme. Donc, 17 mars 1816. Il est tout le temps en train de parler de la température, de parler des saisons. Parce qu'en fait, il est complètement hypocondriaque. Et puis, sa pensée dépend de l'humidité, de la sécheresse, du froid, du chaud. Et toutes ses pensées dépendent de ça. Et comme il va écrire sur Descartes, je vais vous le dire, et son fameux « je pense donc je suis », en lui disant « mais mon cher Descartes, ton « je pense donc je suis » n'a pas de corps, et nous vivons tous à partir de notre corps », la thèse de Maine de Biran ne sera pas « je pense donc je suis », mais « je me sens », au sens où « je me ressens donc je suis ». Donc si je suis ce que je pense, c'est parce que je suis ce que je sens. Et si je suis parce que je sens, c'est parce que je suis ce que je ressens. Et si je suis parce que je ressens, c'est parce que organiquement, mon corps, eh bien, est en lien avec toutes ces températures, cette humidité, cette chaleur, la fièvre, la rencontre des gens. Ce qui fait qu'en fait, ma pensée n'est pas du tout une pensée isolée. 17 mars 1816. La température a été chaude pour la saison depuis le 10. Il y a eu quelques beaux jours interrompus par la pluie. La rivière se soutient à une hauteur considérable. La discussion du budget a commencé le 14 mars. Alors écoutez bien, ça c'est magnifique, si vous avez déjà suivi des réunions. J'ai été assidu aux séances depuis midi à 5 heures. Tout cela qui ne doit être lu par personne, hein. Mon attention est relâchée. Je suis là comme un spectacle dont le fond est peu intéressant et où l'on attend les émotions. Formidable, vous êtes une réunion, il ne se passe rien, vous attendez les émotions. Lui qui est un penseur des émotions. J'en éprouve de très vives. Quand il y a des attaques et des mouvements qui rappellent trop nos assemblées révolutionnaires. Pourquoi? Parce que Maine de Biran, je veux dire, était un royaliste qui a défendu Louis XVI derrière les grilles du château de Versailles parce qu'il faisait partie des gardes du corps de Dordogne et que donc il a défendu Louis XVI. Et quand ça commençait à aller, il avait 23 ans à l'époque, en 1789, quand ça commençait à aller un peu moins bien, eh bien Maine de Biran s'est réfugié au château de Gratteloup. Son propriétaire dit: il était bien, tous les gens l'aimaient bien. Le vigneron dit, il s'est planqué. Bon, donc je ne sais pas quelle est la vérité des deux. Je vous signale qu'il y a, il y a une bonne bouteille Pécharmant Maine de Biran. Hein. Il y a une cuvée Maine de Biran, donc vous pourrez boire une cuvée Maine de Biran, très bonne. Et donc, Maine de Biran est donc là-bas, et il va se cacher, ou écrire, jusqu'à ce que la révolution passe. En fait, en travaillant, en réfléchissant, je me suis dit, mais la révolution, c'est rien du tout pour l'époque. C'est des gilets jaunes, quoi. Ben, c'est beaucoup, les gilets jaunes, hein. Mais je veux dire, pourquoi c'est rien du tout? Parce que Maine de Biran est royaliste. En 1789, la révolution, là, il y a des anarchistes. Bon, après, évidemment, ils font tomber la tête de Louis XVI, ils se cachent. Et puis après, l'Empire, la Restauration. Donc en fait, c'est une période de 10 ans. 10 ans de troubles, et puis après Napoléon Bonaparte, et puis après Louis XVIII, donc tout va bien. Et lui, il meurt en 1824. Ben voilà, c'est la fin de Louis XVIII, donc... Finalement, il était persuadé que être royaliste, c'était être dans son bon droit, à l'époque. Alors, c'est après la relecture qui va changer. Voilà. Donc j'éprouve de très vives émotions quand il y a des attaques et des mouvements qui rappellent trop nos assemblées révolutionnaires. Je ne suis pas fait pour vivre au milieu des passions des hommes. La nature m'a donné une organisation délicate, faible. Je sens le besoin constant d'appui et de bienveillance. Toute résistance, toute opposition est pour moi comme un signe qui menace mon existence. Je sens qu'il m'est impossible de lutter. La confiance qu'on me témoigne, l'approbation, les suffrages, la bienveillance de ceux qui m'entourent sont pour moi des principes d'action nécessaires ou les conditions exclusives de développement de mes facultés qui autrement demeurent inertes et concentrées. Voilà. Je termine parce que c'est peut-être ce qui vous arrivera ce soir. 3 septembre 1816. Temps variable, froid, petite gelée blanche. Je me couche spirituel, savant et plein d'idées. Je me lève imbécile, ignorant, vide de conception. À quoi tient cette science dont nous sommes si fiers? Nous ne disposons pas de notre esprit, de nos facultés de concevoir, d'imaginer, de souvenir. Il ne faudrait s'attacher fortement qu'à ce dont on peut disposer le plus constamment en tant qu'on a son moi. Parce que Maine de Biran va être le penseur du moi primitif et du corps propre. Bien. Alors, après cette introduction rapide, bon, je ne vous raconte pas toute la vie de Maine de Biran, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Pour ce qui est de la Dordogne, quand même, donc, il va faire ses études à Périgueux, il s'appelle Maine de Biran. C'est un nom qu'on a rajouté. Hein. En fait, il s'appelle Pierre-François Gontier de Biran, et pour le distinguer de ses frères, on va lui dire « tu vas t'appeler Maine ». Et Maine, c'était le nom du petit ruisseau. Voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle Maine de Biran. Il va être chez les doctrinaires de Périgueux, hein, donc il va faire ses études là-bas. C'est l'école royaliste de l'époque. Et donc, il devient garde du corps en 1785, garde du corps du roi, et intègre la compagnie de Noailles. Et puis, il va descendre le château de Versailles en 89, dont on dit qu'il échappa miraculeusement à la mort. Dissolution des gardes du corps de Noailles en 1791, massacre de Septembre 1792, il se réfugie au domaine de Gratelot. Assez vite, il va devenir administrateur de Dordogne. Le 1er juillet de 1798, il reste à Gratelot et devient conseiller municipal en 1800, donc le début de l'Empire. En 1804, il y a l'Empire, mais Napoléon arrive. Donc, il rentre au conseil général de la Dordogne. Et puis, en 1805, il devient nommé par l'Empire conseiller de préfecture à Périgueux. Et en 1806, il est nommé sous-préfet de Bergerac. Date à laquelle il va fonder la Société médicale de Bergerac, qui va avoir une importance considérable, parce que Maine de Biran va discuter avec Bichat, enfin, beaucoup de psychiatres de l'époque, qui vont d'ailleurs lui demander de faire des cours pour lui. Voilà. Donc il va écrire, et il écrit tout le temps. Il écrit tout le temps. En fait, il répond à des concours, comme le faisait Rousseau, en particulier un concours. Alors, je peux vous donner... j'ai préparé la note du concours, si je vous retrouve la note du concours. Voilà, question du concours. Lorsque la philosophie a relevé cette question, comment l'être sensible et moteur apprend-il d'abord à connaître son propre corps? Il y a eu un concours de Copenhague, un concours de l'Université de Genève, un concours de Paris, et donc lui, il concourait tout le temps. Il avait tout le temps le premier prix. Ayant le premier prix, on lui proposait de publier. Et il dit, vous inquiétez pas, je vais publier. Et à chaque fois qu'il fallait publier, il dit, non, j'ai pas fini mon chapitre. Et il publiait jamais. Voilà. Un éternel insatisfait. Et par exemple, il a écrit un énorme livre qui s'appelle « Les considérations sur le physique et le moral dans l'homme ». Il n'a pas fini. Et puis Bichat lui demande de faire des cours pour lui. Alors il écrit un deuxième livre qui s'appelle « Les nouvelles considérations sur le rapport du physique et le... » Donc 300 pages, voilà. C'est comme ça qu'on arrive avec Maine de Biran à 8000 pages, ça ne me paraît rien, plus 900 pages de journal. Donc on est presque en tout à 10 000 pages retrouvées. Voilà, donc Maine de Biran, ensuite, sous la Restauration, avec Louis XVIII, alors là, avec l'empereur, ça ne se passait pas très bien. Il n'était pas tout à fait d'accord, donc voilà, c'était assez mitigé. Mais alors, sous Louis XVIII, c'était formidable. Bon, il a quitté sa femme, qui s'appelait... et donc, il quitte sa femme pour sa deuxième femme, qui s'appelle Louise-Anne Farveille de Lacoustette. Je vous raconte une petite histoire, parce que quand on s'est rendu compte que Maine de Biran était si important, enfin, aussi important que Descartes, ce que tout le monde tiendrait aujourd'hui, aussi important que Descartes, donc... Il y a de quoi faire, hein. Il y a de quoi faire. Puis je veux dire que mes étudiants, le château de Gratelot, ils me disent, monsieur Fall, quand est-ce qu'on va au château de Gratelot? Ils ont tous envie de débarquer ici. Hein. On a encore parlé à Montréal il y a 3 jours, hein, de Maine de Biran et du château de Gratelot. Bon. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il va épouser donc une de ses servantes qui s'appelle Louise-Anne Farveille de Lacoustette. Mais alors, c'était pas bien vu dans le pays. Et il se trouve qu'il y a deux abbés, je sais plus leur nom, il y en a un qui s'appelle l'abbé Monclos, je crois. Il y a deux abbés, fin du 19e, qui se sont intéressés à Maine de Biran. Ils ont commencé le château de Gratelot pour trouver des manuscrits. Parce que vous savez, les abbés de Dordogne, il y avait des éditions, hein, c'était des grands érudits. Et ils ont écrit des histoires, et le châtelain m'a dit que les deux histoires des deux abbés disent que, en fait, Maine de Biran n'a jamais divorcé avec sa femme, que Maine de Biran ne connaissait pas cette Lacoustette, donc l'histoire a été refaite pour montrer que Maine de Biran avait bonne figure. Bon, mais c'était pas tout à fait... Voilà. Donc ensuite, au moment de la Restauration, donc, il devient questeur, député de Dordogne, c'est vraiment vrai, en 1817, quand même, voilà, commandeur de la Légion d'honneur, et puis, à la fin de sa vie, il est réélu député de l'arrondissement de Mergerac, et il meurt le 20 juillet 1824 à Paris, puisqu'il avait acheté un appartement rue du Bac, dans le 6e arrondissement, et c'est là qu'il a fini sa vie, parce qu'à ce moment-là, il était très occupé à Paris. Il a été enterré d'abord à Paris, et puis ses ossements ont été rapportés, et maintenant il est enterré au pied de l'église Saint-Sauveur, de la commune de Saint-Sauveur, à 8 km de Bergerac. Donc si vous passez près de Saint-Sauveur, dites un petit bonjour à Maine de Biran, ce que j'ai fait moi-même. Alors, Maine de Biran, pour vous raconter un peu sa vie, c'est quelqu'un donc qui est toujours entre Paris et Gratteloup. Et la première phrase que j'ai connue de Maine de Biran, c'est une phrase que je citais souvent à mon épouse. C'est comme ça que je connais, depuis 20, 15 ans, je parle de Maine de Biran. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas m'inviter à une fête. Mais la phrase est la suivante. C'est une belle chose qu'une fête quand on en est revenu. C'est parfois pas mal. J'aime bien les fêtes, mais quand même, vous comprenez, que vous sortez de la fête, il est tard, vous êtes crevé, et vous dites, ouais, c'est une belle chose qu'une fête quand on en est revenu. Voilà. Alors voilà, Maine de Biran. Donc là, il est à Paris. Température était fraîche. Je serais mieux disposé pour le travail si je ne me laissais pas détourner sans cesse. Une correspondance insignifiante et de pure obligeance toutes mes matinées. Et je suis ensuite tout entier à la vie extérieure. Voilà, le 28, je voulais rester tranquille chez moi. Notre président, l'aîné, alors retenez bien l'aîné, parce que c'est lui qui a reçu les manuscrits de Maine de Biran. Il était député de Bordeaux, mais en fait, il connaissait rien du tout à la philosophie. Donc heureusement qu'il a renvoyé les manuscrits à Gratteloup plus tard. Voilà. Et c'est ça que j'aimais. Le 29 août 1814, il est à Paris. Jour de la fête donnée au roi de la ville de Paris. Le ciel était pur et serein. Je vous signale que tout ça, ça n'aurait jamais dû être lu. Hein. Retrouvé dans des cartons en 1848 par Ernest Naville, fils de François Naville. François Naville est un pasteur genevois qui allait suivre les cours de philosophie de Maine de Biran. À la mort de Maine de Biran, que se passe-t-il en 1824? Il paraît qu'il y avait beaucoup écrit. Ah bon? Alors Victor Cousin, professeur à la Sorbonne, écrit à Félix Biran. Félix Biran, qui était un militaire dans l'armée, qui connaissait rien à la philosophie, et il demande à Félix « Votre père n'aurait-il pas laissé des manuscrits ?» Et Félix répond « Si, si, il y a des caisses chez nous, venez, venez. » Donc ils viennent, et que se passe-t-il? Eh bien, il arrive là-bas, et qu'est-ce qu'il trouve? Trois piles de livres. Une première pile, qui est la pile des écrits philosophiques. Une deuxième pile, qui est la pile des écrits historiques. Et la troisième pile, qui est la pile des écrits personnels. Il se trouve qu'à sa mort, Maine de Biran n'a rien dit de ce qu'il fallait faire de ces milliers de pages. Il a juste dit, juste avant de mourir, à son notaire, « Vous pourriez confier tout ce que j'ai écrit à Monsieur l'aîné. » Monsieur l'aîné, qui était ce député de Bordeaux, qui d'ailleurs ensuite va travailler au ministère de l'Intérieur, et Maine de Biran aussi d'ailleurs avec Monsieur l'aîné. Et donc, quand Cousin arrive, il se retrouve avec une pile d'écrits philosophiques, une pile d'écrits historiques, une pile d'écrits personnels, et il prend les écrits philosophiques. Maine de Biran meurt en 1824. En l'été 1825, Victor Cousin arrive, grand professeur de la Sorbonne, très connu, fondateur du spiritualisme français. C'est pour ça qu'on dira que Maine de Biran est un spiritualiste. Moi, je dis que c'est plutôt un phénoménologue, ou les deux, mais je ne vous embête pas avec ça. Et donc, on va publier le précis, celui-ci surtout, c'est le plus connu. Hein. Donc, l'essai sur les rapports des fondements de la psychologie. Donc, il va publier quatre ouvrages. Et là, tout le monde va se rendre compte que ce Maine de Biran est extraordinaire. Donc, ensuite, je raconte juste l'histoire. Que se passe-t-il ensuite? Eh bien, ensuite, François Naville écrit à Félix Biran, mais cette fois-ci en 1843, et Maine de Biran est mort en 24. Il lui dit, mais cher Félix, est-ce qu'il ne vous resterait pas des manuscrits? Et François Naville écrit dans son propre journal qu'il a reçu deux caisses de manuscrits à Genève, une caisse de 16 kilos et une caisse de 14 kilos. Une qui vient de Monsieur l'aîné. Ça veut dire que M. l'aîné, il ne savait pas quoi faire des manuscrits. Quand il est mort, la famille s'est dit, on fait quoi de tout ça? On le renvoie à Gratteloup. Et le fils, il dit, je fais quoi de tout ça? Je l'envoie là-bas. Et en 1848, donc quelques années plus tard, donc le François Naville meurt, et son fils, Ernest Naville, fait une thèse de philosophie sur Maine de Biran, demande de venir au château, et fouille dans le grenier, donc j'ai pris des photos du grenier, et trouve dans un carton, au-dessus de l'armoire, eh bien, les manuscrits qui ont donné les trois volumes du journal. Donc c'est une histoire absolument incroyable, dont vous allez voir aussi eh bien, le fondement philosophique. Alors je termine cette petite introduction, avant de faire de la philosophie, car nous sommes là pour ça. Je termine cette petite introduction sur Maine de Biran à Paris. Donc, note du 29 août 1814. Le 29, jour de la fête donnée au roi par la ville de Paris. Le ciel était pur et serein, l'air frais. La nature aussi donnait sa fête. Il y avait encore de la nature à Paris à l'époque. Toute la population de Paris était sur pied, répandue le long des quais. Depuis le pont Louis XVI, qui bien sûr s'appelle plus Louis XVI, jusqu'à l'hôtel de ville. La Chambre des députés délibérait pendant ce temps sur le budget qui va presque décider du sort de toute la population française. C'est toujours vrai, n'est-ce pas ? J'avais arrêté, à part moi, d'aller voir la fête de l'hôtel de ville. Et j'ai sacrifié pour cela une partie de la séance, première faute dont j'ai été puni. J'ai traversé seul, à 4 heures, dans ma voiture, les triples haies de peuple et de soldats, et suis arrivé sans peine à l'hôtel de ville. J'ai été longtemps à trouver la salle où m'appelait mon billet. Repoussé de toutes parts, j'errais dans une foule immense et le trouble, l'ennui se sont tout de suite emparés de moi. Mais écoutez cette phrase magnifique. J'étais dans cette fête comme un galérien au bagne, souffrant sans pouvoir m'en aller. Oh, j'adore les fêtes, hein, mais les trop grandes fêtes, faut pas que je le dise trop, mais ici j'ai pas de problème pour le dire. J'étais dans cette fête comme un galérien au bagne, souffrant sans pouvoir m'en aller. Il rentre chez lui, et j'ai dit, en fermant ma fenêtre, « C'est une belle chose, une fête, quand on en est revenu. » Et j'ai lu, pour me remettre, un fragment de Bergasse sur Dieu, sur la parole et sur les athées. Bien. Bon, j'en ai fini pour cette présentation. C'est bref, quand même, présentation de Maine de Biran. Et j'en arrive maintenant au Maine de Biran, philosophe, comme il le dit lui-même, le Maine de Biran qui va revêtir le manteau de la philosophie. Alors, ça va devenir un peu plus compliqué. Hein. Là, c'était que de l'histoire, on va devenir un peu plus compliqué, mais on est là aussi pour faire la philosophie, parce que vous montrez ce que ce personnage qui vit pense. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'on ne pense jamais en dehors de ce qu'on vit. En tout cas, c'est le cas pour moi, et c'était bien sûr le cas pour Maine de Biran. Alors, je voudrais vous parler du rapport de Maine de Biran à deux auteurs. L'un qui s'appelle Descartes, et l'autre qui s'appelle Condillac. Descartes, pour ce qui est du statut de la pensée, Condillac, pour ce qui est du statut du corps. Et puis après, je vous dirai quelques mots de mon hypothèse personnelle, j'en ai une, sur le fait que je propose une interprétation de Maine de Biran qui est totalement l'inverse de ce qu'on dit habituellement. Mais bon, peut-être pas comme tout le monde, mais parce que Maine de Biran était un grand malade, et que mon hypothèse est que si Maine de Biran ne cesse d'insister sur le sentiment intérieur du moi, c'est parce qu'il n'a qu'une peur, c'est de vivre hors de lui. Voilà. D'être hors de moi. Donc, ma thèse, c'est qu'il est hors de lui. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Hors phénomène ». Donc ça, c'est proche de cette idée-là. Maine de Biran est hors de lui parce que, d'une certaine manière, d'abord, il a peur de lui-même, comme on a peur de ses colères. On dit de quelqu'un qu'il est hors de lui, mais il est hors de lui parce qu'il n'existe qu'en dehors de lui-même. Mais il a tellement peur d'être en dehors de lui-même qu'il dit qu'être homme, c'est être en soi-même. Mais il n'arrête pas de dire qu'on est en dehors de soi. Et alors, à la Société de Médical de Bergerac, c'est les meilleurs morceaux, à mon avis, parce que c'est là qu'il étudie les drogues, les maladies, le sommeil, les rêves. Il dit, mais dans tout ça, on est complètement hors de soi. Mais quand on est hors de soi, c'est là qu'on est vraiment soi. Donc, on va avoir deux lectures de Maine de Biran. Soit une lecture par la subjectivité et le corps propre, lecture d'un certain Michel Henry, qui m'apprend là, soit une lecture par l'extériorité, ce que j'appelle le dehors, et le corps impropre, qui est la lecture que je propose. Alors je commence, premier point, par Descartes. Ça va, ça va ? Vous tenez le coup ? On peut commencer. Vous suivez, parce qu'on m'a dit, vous avez entendu, faites de la philo, faites pas trop de philo. Hier, j'ai été interviewé pour une radio, alors la dame m'interview, donc je parle, puis je me dis, il faut pas que je fasse trop de philo. Et puis au bout d'un quart d'heure, elle me dit, mais il dit quoi en philosophie, Maine de Biran ? Alors, je dis, bon, zut, alors il faut que je parle en philosophie. Donc je parle en philosophie, et puis faisons de la philosophie ensemble. Alors Descartes. Descartes qui est si important et dont on dit que Maine de Biran, c'est un nouveau Descartes. Qu'est-ce qui se passe avec Descartes et les méditations métaphysiques ? Donc Descartes, il écrit les méditations métaphysiques en 1641. Maine de Biran, il commence à écrire en 1792. Hein ? Donc c'est un siècle et demi plus tard. Évidemment, Descartes, c'est celui qui révolutionne la pensée, qui pense aussi à partir de lui-même, comme le fait d'ailleurs Maine de Biran plus tard. Et Descartes, en fait, a écrit un traité qui s'appelle le Traité du Monde. Un traité qu'on a retrouvé dans une malle, caché lui aussi. Vous voyez, ça cachait beaucoup à l'époque. Mais parce que Descartes était un rusé. Pourquoi ? Parce que Descartes soutenait la thèse de Copernic, c'est-à-dire la thèse de l'héliocentrisme, c'est le ciel qui tourne, le soleil qui tourne autour de la Terre qui tourne autour du soleil. Je vous dis en passant que la condamnation de Galilée, c'est pas seulement une condamnation sur le fait qu'il a dit quelque chose qui n'était pas dans la Bible, ce qui est vrai, puisque dans la Bible, le soleil se lève et le soleil se couche, mais sa condamnation, ce qu'on appelait la vérité éternelle, c'est d'être si orgueilleux. Parce que qui est-il, celui-là, pour être entré dans l'entendement de Dieu et de savoir que Dieu a trompé l'humanité depuis des siècles et que tout d'un coup, il dit « Dieu, tu nous as trompés depuis des siècles et moi, je connais le secret caché. » Voilà. Hein, c'est l'appel à la création des vérités éternelles. Donc, en fait, il y a un vrai problème, qui est un problème, en fait, on va dire, de religion, qui est beaucoup plus profond qu'un problème astronomique. Alors, Galilée, ça commence à sentir le roussi en 1630, et en 1633, il y a le procès de Galilée, et Galilée est condamné. Et puis, il va dire, et pour Simoé, et pourtant, elle tourne. Bon. Alors, Descartes, ici, oula, il est rusé, hein, il dit, il faut avancer masqué, larvatus prodeo, j'avance masqué. Et Descartes se dit, bon, je n'ai pas publié mon traité du monde. Et en fait, qu'est-ce que fait Descartes? Descartes, il va tirer les conséquences philosophiques de cette révolution copernicienne. Vous savez, Copernic, il n'a presque rien fait. Il écrit au pape, dans le De Revolution Blue, dans le traité des Orbes Célestes, il dit au pape, excusez-moi, je suis désolé de mettre le soleil au centre, c'est plus simple pour mes calculs astronomiques, parce que ça marche mieux. C'est tout. Voilà. Donc la révolution, elle vient plus tard avec Galilée, puis Kepler et bien d'autres. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Bien, Descartes se dit, bien, si l'homme n'est plus le centre du monde, physiquement, comment trouver un nouveau centre? Il va dire, ben, c'est simple. Qui a trouvé que l'homme n'était pas le centre? La pensée. C'est en pensant que j'ai découvert que ce que je vois, c'est pas vrai. Alors la phénoménologie, dont je suis un adepte, dit c'est dramatique. Ce qui est dramatique, c'est qu'aujourd'hui, le soleil se couche. Enfin, vous allez avec un enfant au bord de la mer, il dit, regarde le beau coucher de soleil. Il faut lui dire, mais non, non, il ne se couche pas le soleil, c'est toi qui te couches. Bon. Dans ce cas-là, vous ne voyez plus jamais de coucher de soleil, ni de lever de soleil. Donc c'est un vrai problème. La phénoménologie va dire, revenons au vécu du coucher de soleil, revenons à la poésie, on a tout perdu, bon bref. Alors, Descartes, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, Descartes va dire, en fait, il va douter de tout. Je suis obligé de vous dire ça pour Maître de Biran. Il va douter de tout. D'abord, il va douter des propriétés des choses. Ce qu'on appelle le doute épistémologique. Est-ce que les choses sont telles que je les vois? Cette veste est-elle blanche? Voilà. Puis je vais dire non, en fait, peut-être que c'est pas vrai. Parce qu'en fait, il m'est arrivé quelquefois de douter, de voir une tour au loin que je croyais carrée alors qu'elle était ronde. Alors si une fois je me suis trompé, je me trompe toutes les fois. Vous connaissez ça? Doute hyperbolique. Bon, tout ça, c'est facile, propriété des choses. Je peux même douter peut-être que 2 plus 2 égale 4. Qu'il y a un malin génie qui me trompe toutes les fois que je dis que la somme des angles d'un triangle est égale. Donc on doute, on doute, on doute. Mais après, il faut douter d'autres choses. Il faut douter de l'existence des choses. Je doute des propriétés des choses. Pourquoi? Parce que ce que tout le monde voit, c'est faux. Vous voyez là l'enceinte, vous dites qu'elle est noire. C'est pas parce que tout le monde la voit noire qu'elle est noire. D'abord, je signale que les bovins ne voient pas les couleurs, donc voilà, première chose. La deuxième chose, c'est que tout le monde voit le soleil tourner et il ne tourne pas. Je répète, c'est quand même important, le lever et le coucher du soleil, c'est notre vie. Ce que tout le monde voit, c'est faux. Le fondement de notre existence, c'est faux. Donc vous comprenez que si ce que tout le monde voit, c'est faux, le lever du soleil, vous serez d'accord que c'est pas parce que vous l'on voit tous noir qu'il est noir. Hein. Bon. Mais après, il va douter un peu plus de l'existence des choses. Alors comment il va faire? Il va dire combien de fois ne m'est-il pas arrivé la nuit d'être ici, près de mon poêle de grange dense, ce poêle, ce qu'on appelait la pièce où on pense, assis auprès du feu, tenant mon stylo dans la main, alors que j'étais tout nu dedans mon lit. Comment vous savez que vous êtes à la salle des fêtes de grange dense, là? Vous êtes peut-être en train de rêver que vous êtes ici. Alors vous dites, non, je rêve pas, parce que je me pince. Ben non, vous ne pouvez plus vous pincer parce que vous avez douté des choses, de l'existence des choses. Donc, vous rêvez, peut-être que vous rêvez. Qu'est-ce qui fait que vous rêvez pas? Descartes va dire, impossible de savoir si je suis ici ou en train de rêver que je suis ici. Alors, il va être perdu. Alors, je vous lis quand même un petit passage, parce que c'est magnifique, le début de la deuxième méditation, vous avez préparé ça. La méditation que je fis hier, c'est Descartes, c'est plus Maître de Biran, m'a rempli de tant de doutes qu'il n'est plus désormais en ma puissance de les oublier. Et cependant, je ne vois pas de quelle façon je pourrais les résoudre. Comme si tout d'un coup j'étais tombé dans une eau très profonde. Vous savez, c'est les douves dans les châteaux. Et je suis tellement surpris que je ne puis ni assurer mes pieds dans le fond, ni nager pour me soutenir dessus. Donc il est en train de couler entre deux eaux. Je doute de tout, je doute que les choses soient telles qu'elles sont, je doute qu'il y a quelque chose. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais pendant que je doute, vous connaissez ça, il y a une seule chose dont vous ne pouvez pas douter. Que vous êtes en train de douter. Non? Et donc, vous êtes en train de penser. Je pense donc je suis. Mais vous n'avez pas de corps! Moi, je me souviens quand j'ai découvert ça, où j'étais dans une loge de concierge. Et tout d'un coup, je lisais, je disais, j'ai pas de corps, j'ai pas de corps, mais je pense, je suis, mais j'ai pas de corps. Il faut attendre la sixième méditation pour trouver du corps. Donc, je pense donc je suis, j'ai pas de corps. Alors, je suis quoi? Je suis une pauvre chose qui pense, etc. Elle seule, la pensée, ne peut pas être détachée de moi. Une autre est de penser, elle seule ne peut être détachée de moi. Je suis, j'existe, cela est certain. Voilà le point de départ de Maine de Biran. Alors j'arrive à Maine de Biran, cette fois-ci, en 1812, dans les essais de psychologie. Alors, je veux dire, vous savez, ils ont fait les 20 volumes dans cette édition. Malheureusement, ils ont recomposé les essais de psychologie, on ne comprend plus rien. Donc j'ai retrouvé heureusement l'ancienne édition de Tisserand qui est beaucoup mieux. Voilà ce que dit Maine de Biran. Donc je vous lis Maine de Biran, passage fondamental qui a été mis à l'agrégation de philosophie en 1848. Enfin, je vous raconte ça. 1848, d'abord, Michel Henry, un philosophe très connu, il est dans le Vercors. Il est résistant, c'est un philosophe très connu, je le connaissais bien. Et il fait du morse et tout ça. Et en 43, 1943, oui, pardon. 1943, donc il est résistant. Son petit nom, c'est Kant. C'était son nom de résistant. Emmanuel Kant. Et donc, il avait quoi? Des morceaux choisis d'un certain Henri Gouillet. Voilà. Et donc, il va lire ça. Et il va écrire ce Maine de Biran. Et puis, Henri Gouillet, en 1948, il va mettre au programme de l'agrégation de philosophie Maine de Biran. À ce moment-là, il y a Maurice Merleau-Ponty. Vous avez dit quelque chose, non? Il va donner des cours sur Maine de Biran. C'est publié, l'union de l'âme et du corps. Voilà. Paul Ricoeur, juste après, va écrire ce Maine de Biran. Donc tout le monde va écrire ce Maine de Biran. Donc on va découvrir ce personnage. Qu'est-ce qu'il dit ce personnage? Dans un chapitre très important qui s'appelle « Détermination du fait primitif de sens intime ». Je lis « Alors que pour Descartes, je pense donc je suis, c'est que je suis un être pensant par ma conscience. » Je lis pour Maine de Biran. Il n'y a de fait pour nous qu'autant que nous avons le sentiment de notre existence individuelle et celui de quelque chose, objet ou modification qui concourt à cette existence. Donc un sentiment. Voilà. Maine de Biran, c'est un penseur de l'affect. Pourquoi? Parce qu'il découvre quelque chose qu'avait déjà découvert Descartes mais jamais développé. C'est « il me semble que je vois ». Oui, des ré, oui, des or. Je vous lis Descartes, qui est le point de départ Maine de Biran. Mais l'on me dira que ces apparences sont fausses et que je dors. Alors en fait, on dort deux fois chez Descartes. On dort une première fois dans la première méditation, parce qu'on ne sait pas si on est dans le rêve ou dans la veille. Mais on dort une deuxième fois quand on a trouvé le cogito. Parce qu'après tout, quand vous dites je pense, donc je suis un être pensant. Et si vous mettez à dormir, vous n'êtes plus un être pensant. Et c'est un vrai problème. On va avoir besoin de Dieu. Mais il dit, quand bien même je dormirais, il est très certain, écoutez bien, qu'il me semble que je vois. Il est très certain, en latin, adquerté, qu'il me semble que jouis. Il est très certain qu'il me semble que je m'échauffe, et c'est proprement ce qui en moi s'appelle sentir, qui est le cogito. Le plus certain, c'est le plus probable. Ou le plus probable, c'est le plus certain. On croyait que le plus certain, c'est je pense donc je suis. Mais c'est pas tout à fait ça. Parce que quand bien même vous seriez en train de dormir, et donc de ne pas savoir si vous êtes en train ici d'être à la conférence de Grandjean ou de ne pas être à la conférence de Grandjean, ce qu'il est très certain, c'est qu'il vous semble que vous êtes à la conférence de Grandjean. Vous êtes d'accord ou pas? Et ça, vous ne pouvez pas en douter. Parce qu'il vous semble, c'est ce qu'on appelle l'auto-affection. Vous êtes affecté par vous-même. En fait, vos sentiments sont beaucoup plus proches de vous que vos pensées. Vous me dites, en fait, la conférence, elle a dit 20h30 ou 18h30? Parce qu'avant, c'était 18h30. Ah non, c'est 20h30. Donc là, vous pouvez dire, bah non, c'est tel jour. Ah, c'est quel jour? Ça, c'est vos pensées. Mais il me semble que j'ai froid. Que vous ayez froid, que vous n'ayez pas froid, il me semble. Ou on n'est pas. Donc le « il me semble », le sentiment intérieur, c'est cela qui fait, pour Maine de Biran, eh bien, la vérité du corps et la vérité de sa pensée. Je vous lis un autre passage. « Avoir conscience de soi, c'est exister pour soi. Mais être une chose, une substance en soi, n'est pas exister pour soi-même ou se sentir exister. » Alors, le deuxième point de Maine de Biran, allez, ça va, on fait de la philo, ça marche. Le deuxième point de Maine de Biran, alors là, ça va être très dur, mais c'est pas grave, je le fais quand même. Le deuxième point, c'est que une première critique qu'on a faite à Descartes, très classique, c'est que je doute de tout ce que je doute, donc je pense, donc je suis un être pensant, je suis tout seul. Je suis tout seul. Et les autres, ils sont où? On appelle ça le solipsisme. Mais il y a une deuxième critique qui est beaucoup plus intéressante. C'est que Descartes a dit, ah oui, je pense, donc je suis, mais je suis quoi? Une chose qui pense, res cogitans. Une chose qui affirme, qui doute, qui sent. Alors là, c'est raté. Husserl va dire au paragraphe 10 des méditations cartésiennes comment Descartes a manqué l'orientation transcendantale. Pourquoi c'est... Excusez-moi, c'est vrai, on laisse tomber. Pourquoi c'est raté? Pourquoi c'est raté? Parce qu'il a bien découvert que je suis un être en train de penser, mais il a dit après que je suis une chose qui pense. Donc, accrochez-vous, si Descartes a douté de toutes les choses, il n'a pas douté de la modalité de la chose. Je répète, si Descartes a douté de toutes les choses, il n'a pas douté de la modalité de la chose. Il a douté de tout, que les choses soient telles que je les vois, qu'il y ait quelque chose. Je ne peux pas douter que moi je sois là, mais si moi je suis là, je dis je suis une chose qui pense, je n'ai pas douté du fait que j'étais une chose. Vous voyez ? Alors Maine de Biran, il va dire « Je ne suis pas une chose. » Et c'est le tout début de la philosophie contemporaine. C'est Kant qui veut dire « C'est quoi la distinction entre une personne et une chose ?» Ben, c'est qu'une personne doit pouvoir toujours être une fin en soi. Vous savez, vous avez des fins qui servent de moyens, des fins, mais on a une fin en soi. Et une chose, c'est quoi? C'est un moyen. Ben, nous ne sommes pas que des moyens les uns pour les autres. Voilà, nous sommes des fins. Donc nous ne sommes pas des choses. Et même un philosophe comme Emmanuel Levinas, vous savez, un juif qui a pensé à partir d'Auschwitz, il dit, si Auschwitz s'est produit, c'est pour une raison métaphysique, la réification des personnes, parce qu'on a fait en sorte qu'une idéologie rende les personnes comme des choses. C'est comme ça que les SS, alors le procès avec Hannah Arendt, etc., le procès d'Eichmann, Eichmann il dit, c'est pas de ma faute. Mais si c'est de votre faute. Mais il ne savait plus que c'était des personnes. Donc le meurtre métaphysique, c'est la réification des choses. Alors Maine de Biran, il dit, non, nous ne sommes pas des choses. Voilà. Donc ça, c'est la grande découverte, donc, de Maine de Biran, sur ce sentiment d'exister intérieur. Voilà. Ça va être le point de départ de quoi? D'une philosophie qu'on appelle aujourd'hui la phénoménologie. En fait, Husserl, je ne sais pas ce que c'est, On va découvrir Husserl, on va découvrir Heidegger, et après on va lire Maine de Biran, on dit il avait déjà tout trouvé. Il y a quelqu'un qui a déjà tout trouvé avant vous. Effectivement. Alors, le deuxième point, beaucoup plus drôle, c'est la question du corps. Deuxième partie. Premier point, le sentiment d'exister, Maine de Biran et Descartes. Deuxième partie, exister par son corps. Maine de Biran et Condillac. Alors là, c'est savoureux, l'histoire de la statue. Alors, Condillac, c'est un abbé, hein, l'abbé de Condillac, qui vivait près de Paris, et en 1754, il écrit ce livre très important qui s'appelle « Le traité des sensations ». Et c'est le premier à commencer à répondre à cette question « Comment l'homme peut-il se connaître lui-même par son corps ?» Alors, il va faire une hypothèse, bon, après la preuve du meilleur, et l'hypothèse de quoi? D'une statue. Une statue qui n'a jamais rien senti. Alors il prévient le lecteur d'abord. Et je vous préviens parce qu'il prévient le lecteur. Si vous n'êtes pas d'accord de faire ce que fait Condillac, c'est un livre sur qui c'est extraordinaire, hein, c'est-à-dire d'adopter son point de vue, vous ne comprendrez pas. Mais il vous dit, vous êtes obligé d'adopter mon point de vue. Avis important au lecteur. 1754, traité des sensations. J'avertis donc qu'il est très important de se mettre exactement à la place de la statue que nous allons observer. Tout ça écrit en français, c'est pas la traduction. Il faut commencer d'exister avec elle, n'avoir qu'un seul sens, quand elle n'en a qu'un, n'acquérir que les idées qu'elle acquiert, ne contracter que les habitudes qu'elle contracte. En un mot, il faut n'être que ce qu'elle est. Il ne faut pas être spectateur de la statue, on va être dans la statue. Elle ne jugera des choses comme nous que quand elle aura tous nos sens et toute notre expérience. Et nous jugerons comme elle que quand nous nous supposerons privés de tout ce qui lui manque. Je crois que les lecteurs qui se mettront exactement à sa place n'auront pas de peine à entendre cet ouvrage. Les autres m'opposeront des difficultés sans nombre. Alors mettons-nous à la place de la statue. Statue de marbre. Elle me bougeait une statue de marbre, qui n'a jamais rien senti. Et donc l'hypothèse, c'est de dire, on lui enlève tous les sens. Pas de vue, pas d'ouïe, pas goût, pas de goût, pas d'odorat, pas de toucher. Mais le problème, alors ça c'est mon hypothèse, c'est que quand vous dites que la statue n'a pas d'ouïe, pas de goût, pas d'odorat, pas de toucher, vous pensez la statue de manière privative. C'est-à-dire que vous dites, ah la statue c'est moi sans l'ouïe, ah c'est moi sans la vue, c'est moi sans le toucher. Mais il y a eu des expériences très intéressantes depuis. D'un certain von Uxküll, un physiologiste allemand de la fin du 19e siècle, qui a écrit un livre qui s'appelle « Mondes animaux, mondes humains » et qui dit « Mais c'est pas comme ça qu'il faut penser. » Parce qu'il dit « En fait, qu'est-ce que c'est qu'une tique ?» Magnifique exemple de la tique. « Qu'est-ce que c'est qu'une tique ?» dit von Uxküll. « C'est un animal qui a du goût, d'accord, de l'odorat, du toucher, pas d'ouïe du tout, et à peine une sensation de la vue. » Donc, on ne peut pas dire qu'il manque, l'ouïe à la tique. Elle n'a pas d'ouïe. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que la vie d'une tique? La vie d'une tique, c'est d'attendre au sommet d'une tige qu'une fourrure passe et que je rends, que la tique tombe là. Donc, von Uxküll est le premier à dire « Il faut mettre le machiniste, le chauffeur, dans la machine. » C'est les machines à vapeur. Et c'est tous les documentaires animaux que vous voyez à la télévision aujourd'hui, c'est ça. Dans ma jeunesse, on filmait les animaux. Aujourd'hui, on se met dans les animaux. Voilà. D'accord ? Donc, au lieu de dire que la statue, d'accord, c'est moi, sans la vue, sans l'ouïe, sans l'un, vous dites que la statue, c'est rien. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Premier point, l'odorat. Je vous signale que Maître Biron ne va pas être d'accord avec lui. Je vais vous dire ce qu'il va dire lui. D'abord, l'odorat. Si nous lui présentons une rose, très connue, elle sera par rapport à nous une statue qui sera une rose. Mais par rapport à elle, elle ne sera que d'odeur de cette même fleur. Elle sera donc odeur de rose, d'œillet, de jasmin, de violette, suivant les objets qui agiront sur son organe. Si vous faites sentir à la statue une rose, qu'elle n'a jamais rien senti, qu'elle n'a jamais rien vu, qu'elle n'a jamais rien entendu, qu'elle n'a jamais rien goûté, qu'elle n'a jamais rien touché, elle ne va pas pouvoir dire « Ah, une rose !» Puisqu'elle est un sujet qui ignore totalement l'objet. Donc, elle devient l'odeur de rose. Et ce qu'écrit Condillac, c'est « Elle sera donc odeur de rose. » Même de Biron dira, alors j'ai beaucoup insisté à Paris là-dessus, « Je suis odeur de rose. » Il n'a pas compris. Elle sera donc odeur de rose. Louis, deuxième sens. D'un homme borné au sens de l'ouïe. Bornons notre statue au sens de l'ouïe et raisonnons, comme nous avons fait, quand elle n'avoit, sans penser, que celui de l'odorat. Bah, elle devient que ce qu'elle sent. Alors, on peut me dire, oui, mais il y a quand même des étapes. Bah, oui, il y aura des étapes, hein. Alors, je vous donne les étapes. D'abord, je sens. Ensuite, eh bien, la statue va jouir de l'odeur de rose, ou souffrir, donc elle va aimer ou pas aimer. Cette image de « j'aime bien, j'aime pas » va se graver dans sa mémoire, donc la naissance de la mémoire. Ensuite, elle va comparer les odeurs, Ensuite, elle va s'étonner, elle va juger, et puis elle va conserver les idées pour ensuite agir. Mais il n'empêche que elle est toujours l'odeur de rose, ou elle est l'odeur de jasmin. Dans le cas de Louis, elle devient ce qu'elle entend. Dans le cas du goût, elle acquérera les mêmes facultés qu'avec la Louis et l'odorat. Sa bouche est aux saveurs, ce que le nez est aux odeurs, l'oreille est au bruit, etc. Voilà. Et quant à la vue, eh bien, ce sera la même chose, elle sera ce qu'elle voit. Et puis, vient, écoutez bien, Comment un homme borné ou touché découvre son propre corps et découvre qu'il y a quelque chose en dehors de lui? Vous ne savez pas que le monde existe, ni par l'odeur, ni par la vue, ni par le toucher. Non, ni par le toucher, ni par l'odorat, ni par l'ouïe, etc. Mais vous le savez par le toucher. Alors pourquoi? Vous savez, ce point est fondamental. Pourquoi il est si fondamental? Parce qu'il y a un philosophe contemporain qui s'appelle Merleau-Ponty, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui a dit, faut arrêter de fonder la philosophie sur la vue. Ce qu'ont fait les Grecs. Parce que les Grecs, qu'est-ce que c'est qu'une idée? Ça vient de idein, orao, qui veut dire voir. Alors l'idée de Platon, c'est ce que je vois. D'ailleurs, si je vous dis, vous voyez ce que je veux dire, vous voyez rien et vous voyez. Donc c'est bien une pensée, le fait de voir. Et puisque dit Aristote, la première phase de la métaphysique, tous les hommes désirent naturellement savoir, ce qui le montre, c'est le sens de la vue. Oui, parce qu'on peut voir plusieurs personnes en même temps. Mais Merleau-Ponty va dire, mais non. En fait, notre vraie relation au monde, c'est le toucher. Voilà. Parce que quand ma main gauche touche ma main droite, eh bien, je ne sais pas quelle est la main touchante, quelle est la main touchée. C'est la main gauche qui touche la main droite ou la main droite qui touche la main gauche? Et puis quand je touche l'autre, un, je sens. Deux, je sens que je sens. Trois, je sens qu'il sent. Mais quatre, je ne sens pas ce qu'il sent. Précisément parce que je ne sens pas ce que l'autre sent, qu'il doit me dire ce qu'il sent, qu'on a besoin de la parole. Donc vous voyez bien, on pourrait faire des heures là-dessus, mais vous expliquez que, en fait, le toucher, c'est fondamental dans la philosophie contemporaine. Mais Condillac est le premier. Alors qu'arrive-t-il dans une sensation de toucher? Eh bien, dans une sensation de toucher, j'éprouve, dit Condillac, l'impénétrabilité et la solidité des corps. Je prends l'exemple de Condillac. Supposons que la statue, alors la statue, elle se promène comme ça, et que tout d'un coup, par hasard, sa main cogne sa poitrine. Nous pouvons supposer que sa main se portera naturellement sur quelques parties de son corps, sur la poitrine, par exemple. Alors sa main et sa poitrine se distingueront à la sensation de solidité. À partir de ce moment-là, il apprendra que la poitrine est chaude ou qu'elle est froide. Il va passer sa main sur tout son corps pour comprendre qu'il a son corps. Et tout d'un coup, elle reconnaît le sien. Donc, on va dire cogito, non pas ergo sum, non pas je pense donc je suis, mais je sens donc je suis. Je me sens. Condillac, Maine de Biran, je me ressens. On y est? Descartes, je pense donc je suis. Condillac, je sens donc je suis. Maine de Biran, je ressens donc je suis. Donc là, on en est dans le je sens donc je suis. La statue apprend à connaître son corps et à reconnaître les parties qui la composent. Et parce qu'aussitôt qu'elle porte la main sur l'une d'elles, le même être sentant se répond en quelque sorte l'un à l'autre. C'est moi! Ah oui, parce que c'est vous, ça résiste. Qu'elle continue de se toucher partout, la sensation de solidité représentera deux choses qui s'excluent et qui en même temps sont contiguës, et partout le même sentant se répondra à l'autre. C'est moi! C'est moi encore. Non, c'est une reprise du cogito de Descartes. Ne le dire je, c'est moi. Je réponds à un autre. Vous voyez? Parce qu'on ne dit jamais je, on ne dit jamais je au nominatif. Moi, c'est l'accusatif. Il se sent dans toutes les parties du corps. Ainsi, il n'arrive plus de se confondre avec ses modifications, etc., etc. Donc, c'est moi encore. Condillac écrit ce traité, le traité des sensations, qui sera très largement discuté. Ça vient de Locke, etc. Alors, Maine de Biran. Alors, Maine de Biran, la main en Maine de Biran. Alors, que va dire Maine de Biran? La première chose que va dire Maine de Biran, c'est que il va faire, à mon avis, un contresens. On commence par la rose et on continue par la main. Ça va? On commence par la rose. Tout ça n'a jamais été publié. Hein. Tout ce que je vous dis n'a jamais été publié, c'est découvert plus tard. Donc, il y en a des choses en Dordogne, hein, ça pense. Hein. Alors, voilà ce que dit Maine de Biran. Pour le spectateur, celui qui fait l'hypothèse de la rose en dehors, etc., etc., or, tant qu'elle est odeur de rose et rien n'existe, rien de plus, elle n'existe que pour elle-même. Il n'y a point de fondement intérieur au verbe à la copule « je suis ». Car s'il y avait pour la statue un fondement réel, de ce fait, « je suis odeur de rose ». Alors, ça c'est ma découverte, mais je suis content sur ce point-là. Parce que qu'est-ce que disait Condillac? Ben Condillac, il disait « elle sera donc odeur de rose ». Oui, elle sera donc odeur de rose. ça s'appelle lien totalement neutre. Tant que je ne me suis pas touché, je ne dis même pas c'est moi. Donc, on voit quoi? On voit que quand Maine de Biran commande Condillac, il a déjà changé les phrases. Au lieu de dire « elle sera donc odeur de rose », il dit « je suis odeur de rose ». Il y a une commentatrice, Markowitz, qui l'avait vue, sauf qu'elle dit « je suis une odeur de rose ». Non, il n'a pas dit « je suis une odeur de rose ». Il a dit « je suis odeur de rose ». Donc, premier point, dès que Condillac commence à parler de... Non, dès que Maine de Biran commence à parler de Condillac, c'est un peu méchant, mais il est un peu comme le serpent dans la Genèse. Vous savez, le serpent dans la Genèse, il ment dès le départ. Parce que Dieu, dans la Genèse, y avait dit « tu peux manger de tous les arbres du jardin, sauf un ». Et le serpent dit « c'est vrai que Dieu vous a dit que vous pouviez manger d'aucun arbre du jardin ?» Il n'a jamais dit ça. Il a dit qu'on pouvait manger de tous les arbres, sauf un. D'ailleurs, voilà. Alors, vous voyez, dès qu'on tord une parole, alors sans faire exprès, Maine de Biran va tordre la parole. Pourquoi il tord la parole de Condillac? Mais parce qu'il n'est pas du tout d'accord avec Condillac. Parce que ce que veut Maine de Biran, c'est le sentiment intérieur de soi. Alors que c'est ce que ne veut pas Condillac, dont on disait que c'était un empiriste. Alors, à partir de ce moment-là, eh bien, il est clair que pour Maine de Biran, eh bien, qu'en est-il pour la main? Eh bien, Maine de Biran va dire qu'en réalité, pour dire moi, ou plutôt je, parce que lui, il va revenir au jeu, alors que Condillac était dans le moi, ça ne suffit pas de se toucher la poitrine. Parce qu'il dit, en fait, bien avant que de me toucher la poitrine, je sais par le toucher, ou plutôt par la sensation que j'existe. Comment? Par l'effort musculaire dans ma main. C'est une réduction en philologie. Il dit, voilà, si je prends ma main comme ça, et que je ne prends rien dans ma main, je sens en moi l'effort. C'est pour ça qu'on va dire que Maine de Biran, c'est un penseur de l'effort. Voilà. Pas l'effort parce qu'on s'efforce à faire des choses, mais l'effort en soi. Et c'est donc que dans la main, indépendamment des choses, que je me ressens moi-même. Je vous lis Maine de Biran qui répond à Condillac un siècle et demi plus tard dans un livre qu'on a retrouvé. Le sens de l'effort est tout intérieur. Et l'espèce de résistance que les muscles opposent à la force, etc., la pression est sentie dans la main qui presse. Vous voyez la différence? La pression est sentie dans la main qui presse et dans la partie qui est pressée. L'effort n'est senti que dans la main. Ça veut dire que Maine de Biran, c'est à la fois un penseur du sentiment intérieur de soi, ça va, je m'éprouve moi-même, mais c'est un penseur du corps propre. C'est-à-dire que j'existe par mon propre corps, par le sentiment que j'ai de mon corps. Je signale, s'il y a des philosophes ici, que le mot de corps propre est chez Maine de Biran, et que c'est la traduction d'un des mots les plus célèbres de la philosophie, Leib, par corps propre en français. Alors quand Ricoeur va lire Maine de Biran, on va dire, mais c'est pas possible, est-ce que... Parce que il écrit en français des mots qui seront des mots qu'on va retrouver dans la philosophie contemporaine. Voilà. Donc Maine de Biran est un penseur du corps ou du corps propre. Alors je termine, ou j'ajoute encore un point, ça va, vous tenez? Oui, j'ajoute encore un point, puis après je terminerai, pour 10 minutes, j'ajoute un dernier point en disant, ben, en fait, ce Maine de Biran, je vous ai expliqué, donc vous voyez, il est tout fragile, hypochondriaque, mais en même temps allant à Paris, député, donc à la fois mondain, mais revenant toujours à Gratteloup, jamais content de lui, publiant jamais ses livres, bon. Eh bien, ce Maine de Biran, en fait, on va découvrir qui il est, quand, eh bien, dans les discours à la Société médicale de Bergerac. Alors ça, c'est, vous voyez, c'est quand même bien d'avoir dans les heures complètes, chez Vrin, un volume, et le CNRS a quand même payé 15 ans, 10 chercheurs, pour faire cette édition, hein, donc c'est beaucoup, quoi. Donc, Maine de Biran, je lis l'introduction. Maine de Biran est sous-préfet de Bergerac. Depuis le 31 janvier 1806, le 15 novembre de cette même année, il se trouve avec plusieurs médecins, chirurgiens et officiers de santé, tous réunis chez le pharmacien Gardet, à Bergerac. Pénétré du plaisir de se trouver ensemble et pressé du besoin de renouveler de pareilles réunions, Maine de Biran est élu immédiatement président. Et M. Delpy et M. Condillac, les deux secrétaires, et le trésorier, M. Gardet. Et donc, qu'est-ce qu'il va écrire? Eh bien, ce sont des traités de psychiatrie. Et donc, lieu de parler du sentiment intérieur de soi, il va parler de ce qui est hors de soi. Et alors que Maître de Biran n'a parlé que de moi, mon sentiment intérieur, mon corps, voilà qu'il dit que parfois l'homme est hors de lui. Ce qui rejoint moi une thèse qui est hors phénomène. Alors il dit des choses comme ça. Un être de notre espèce, ayant les formes extérieures de l'homme, on croit que c'est un homme, c'est pas vrai, un homme, c'est comme un animal, n'existe pas pour lui-même. Aussi dit-on très justement dans le vulgaire que dans un état, l'homme est hors de lui, étranger à lui-même, aliénus, d'où le mot très bien fait d'aliénation. Voilà. Aliénus, ça veut dire autre. Ben, parfois, en fait, c'est faux, ça marche pas. Le sentiment intérieur de moi, dans mon sentiment, ça marche pas. Je suis hors de moi. Le corps propre, ça marche pas. Parce que mon corps, je ne reconnais pas comme mon corps. Moi, j'appelle ça, dans mon livre en phénomène, maladie, séparation, mort d'un enfant, catastrophe naturelle, pandémie. J'ai pris cet exemple où je dis, je ne me reconnais pas moi-même, ni dans ma conscience, ni dans mon corps. Il arrive parfois, dit-il, que se produit, je lis, une absence complète, momentané ou permanent du sentiment du moi, si vous avez vécu un vrai traumatisme, le vrai traumatisme, finalement, fait que je n'ai plus d'accès à moi. Je ne peux même plus dire je. Je ne peux même plus dire moi. Voilà. Les conditions de possibilité pour que quelque chose m'arrive n'existent plus. Voilà. C'est ce qu'il va appeler l'aliénation personnelle. Alors il va ajouter que, dans ce cas, eh bien, je ne suis plus moi-même. Et que un autre, entre en moi. Il peut dire que dans ce cas, l'esprit n'est pas senti. Alors qu'avant, il était senti, pour critiquer Descartes, mais il était senti. Nous croyons pourtant à sa présence intérieure, mais la fatigue, voilà ce qu'il dit à Bergerac, la fatigue, les maladies ne peuvent rien sur l'esprit. Le sommeil, la fureur, l'ivresse, ne sont pas des quelques érosions faites à l'âme immortelle. Ce sont les passions d'une vie inférieure ou de l'âme sensitive. Toute passion commençante qui ne va pas jusqu'à absorber le moi, l'homme la sent intérieurement, une force étrangère à lui s'empare de lui et se met à sa place. C'est extraordinaire, moi c'est ma thèse, puisque le fait qu'on ait un sentiment intérieur et le fait qu'on ait un corps propre, d'autres l'avaient dit. Mais moi, je dis, s'il le dit, c'est parce qu'en fait, il n'est jamais dans le sentiment intérieur. Il n'est jamais dans le corps propre. Voilà. C'est ainsi que dans les attaques de folie ou de rage, le malheureux perd son bon sens et un autre être va se substituer à son moi. Hors de lui, la colère, mais hors de moi. Je ne suis plus dans mon ego, je ne suis plus dans mon cogito. Alors voilà un discours que Maine de Biran fait à la société de Bergerac. Je crois que c'est un discours de 1809. Tout ça, c'est des notes qui ont été prises. Ce sont les considérations sur le sommeil, les songes et le somnambulisme qui ont été lues par Freud. Je lis. Il y a des causes passives. Et dans ces causes, eh bien, il y a les narcotiques, les poisons, les miasques contagieux et les liqueurs fermentées. Les périodes successives de l'ivresse occasionnées par l'opium ou le vin nous mettent à portée de ce qui va suivre. Les réjouissants de la folie, la volonté devient incertaine, les membres deviennent indociles, il n'y a plus d'effort, mais il n'y a que des mouvements, il n'y a plus de moi. Le corps n'est plus soutenu par cette puissance de l'exercice de l'effort à l'état de veille, il ne devient qu'une force mécanique. Donc, qu'est-ce que va dire Maine de Biran? Il va dire que finalement, eh bien, au discours de Bergerac, que je suis hors de moi. Alors, je conclurai simplement en vous disant, conclure, que Maine de Biran, eh bien, est un penseur, non pas seulement de la raison, mais de la folie, non pas seulement de la conscience, mais du sentiment, non pas seulement du corps-objet, mais du corps-sujet, et que tout cela, il l'a vécu dans toute son existence. Et voilà ce qu'il dit de lui-même dans une note du 23 juillet 1816, le fameux colon métaphysicien. Qui sait tout ce que peut la réflexion concentrée? Qui sait s'il n'y a pas un nouveau monde intérieur? qui pourra être découvert un jour par quelques colons, Christophe Colomb, métaphysicien. Je vous remercie.
Si je me lève, c'est pour vous donner la parole, c'est pas pour vous dire que j'ai tout compris. J'aurai beaucoup de modestie pour ça. Merci pour la qualité du conteur, parce que vraiment vous vivez ce que vous nous racontez. Alors, par moments, je ne savais pas si vous étiez dans le corps de Maine de Biran ou dans celui de Descartes, mais on y était. On sentait bien qu'on y était. Alors, si une question, j'aime bien poser des questions stupides qui permettent un atterrissage en douceur. Raymond Devos, c'est avant ou après? Parce qu'il y a des moments, c'est vraiment ce feu d'artifice, c'est assez extraordinaire. Bien. Alors, je voudrais savoir si quelqu'un a quelques questions à poser. Oui.
Merci effectivement pour cette intervention vraiment très très intéressante. Je voudrais vous poser une question. Vous avez dit au détour d'une phrase que vous pensez que Maine de Biran aurait pu avoir le même destin intellectuel qu'un Descartes. Vous avez dans une deuxième phrase poser une égalité ou une identité assez hardie en disant on est du côté de la chose chez Descartes, le res cogitans, et on est du côté de la personne chez Maine de Biran. Si Descartes, au fond, est aujourd'hui quand même, malgré ce que vous savez, ce que vous nous dites et la façon dont vous le dites, beaucoup plus connu que Maine de Biran, n'est-ce pas parce que Descartes a permis ensuite que ce que nous pouvons percevoir puisse être transformé en concept, et que le règne au XIXe siècle de la science triomphante a évidemment beaucoup plus mis en avant le cartésianisme que toute école de pensée, sauf peut-être, mais ça va dans mon sens, sauf peut-être dans les universités anglo-saxonnes, où de Locke, Berkeley surtout, et David Hume, on se retrouve effectivement avec une analyse de la personnalité ou du esse percipi, de l'être comme élément, reprenant ce que vous avez dit, bien sûr sur Condillac, mais même Berkeley étant antérieur, on a tout de même, bien sûr, cette idée que la connaissance se fait d'abord par la perception. Mais ce que permet Descartes, c'est en quelque sorte l'objectivation. Si je veux l'idée d'un triangle, je peux regarder le champ, ou d'un rectangle, je peux regarder le champ, mais si je veux envisager les triangles ou les rectangles dans leur abstraction et leur complétude, je vais avoir beaucoup plus besoin de Descartes que de Maine de Biran. Voilà.
Merci. Nous avons la réponse.
Alors, je vous remercie pour votre intervention philosophique, tout à fait juste. Alors, d'abord, tout à fait d'accord avec vous, bien sûr, pour dire que Descartes, c'est le fondateur de la science moderne. Donc, il est évident que c'est la pensée de Descartes qui a primé. Aussi, d'ailleurs, parce que Maine de Biran n'était pas connu. Vous dire aussi que si Maine de Biran a été retrouvé, redécouvert par ce qu'on appelle le spiritualisme, en particulier donc Victor Cousin, mais après il y aura Lagneau, Ricoeur et bien d'autres, ou des phénologues comme Michel Henry et bien d'autres, c'est précisément parce qu'on revient au vécu, parce que vous savez, c'est bien de dire la science, mais aujourd'hui on revient au vécu. Le deuxième point, j'espère n'avoir pas dit que Maine de Biran avait découvert le concept de personne, je crois que c'était Kant, hein, je parlais de Kant à ce moment-là, je dis que c'est Kant qui a découvert le concept de personne, parce que c'est Kant qui a distingué entre la fin en soi et le moyen, même si la chose commence à naître chez Maine de Biran, parce que ce qu'a vu Maine de Biran, c'est que le sujet n'était pas qu'une chose. Descartes a vu, bien sûr, que le sujet n'était pas une chose, puisque c'est lui qui pense la cogitation comme acte d'être. Mais après, il se dit, en quoi est-il une chose pensante ? Voilà. Dernière partie de votre question sur l'empirisme. Alors, bien sûr, Maine de Biran vient de l'empirisme plutôt que Condillac. Bon, l'origine de tout cela, vous l'avez cité, c'est Locke. Le problème de Molineux et des aveugles, hein, parce que Locke est le premier à se demander, mais si jamais un aveugle de naissance voyait un cube, est-ce que ce cube, qu'il n'avait jamais vu un cube, mais qu'il a vu que des ronds, est-ce que s'il voit tout d'un coup, on lui redonne la vue, est-ce qu'il voit que c'est un cube ou pas un cube, est-ce qu'il a besoin de... Donc vous avez raison. Donc la question de l'empirisme, Locke, et puis l'idéalisme, Berkeley, tout cela vient de cela. Je suis tout à fait d'accord. Mais ce qui est intéressant, à mon avis, c'est qu'au lieu de condamner trop rapidement l'empirisme, ce qu'on fait quand même en France, parce qu'en France, tout le monde dit Condillac a tort, Maine de Biran a raison. Mais moi, je ne dis pas forcément que Condillac a tort. Parce que quand Condillac dit que mon corps me résiste, c'est-à-dire que je vois mon corps comme un objet, ben c'est vrai dans le cas de la maladie. Quelqu'un qui a une tumeur, il voit son corps comme un objet. Donc cette idée que finalement, il y a une objectivation pour moi de mon corps, ça arrive dans les cas extrêmes. Donc moi, ce qui m'intéresse, que j'ai appelé moi un concept qui s'appelle le corps épandu, entre le corps étendu, le corps... Donc il y a des cas extrêmes durant lesquels je ne vis pas mon propre corps. Mon hypothèse, c'est l'hypothèse inverse de Merleau-Ponty, tout le monde va pouvoir comprendre. Merleau-Ponty se demande comment se fait-il que je sois capable de ressentir un membre que je n'ai pas, ce qu'on appelle le membre fantôme. Donc il dit, je suis capable de ressentir, je suis amputé du bras, je sens mon bras, je suis amputé de... un morceau de la jambe, je sens ma jambe, ce qui est absolument vrai. Puisqu'en fait, c'est en me mouvant dans l'espace que je ressens les choses. Mais moi, je propose l'inverse. Comment se fait-il que je ne ressente pas le membre que j'ai? Voilà mon problème. C'est-à-dire, comment se fait-il que mon corps, parfois, soit objectivé, dans des cas extrêmes, par exemple la maladie, j'ai écrit un livre sur les soins palliatifs, par exemple. Comment se fait-il que mon corps... comment se fait-il que ma pensée est objectivée, que j'appelle la pensée épandue? Si vous êtes obsédé par une idée, vous êtes dans un chaos absolu. Alors pour moi, le chaos, dans un de mes premiers livres, c'était l'ouvert. Aujourd'hui, le chaos que je tiens, ce n'est pas le chaos d'Hésiode. Au commencement, on a acquis chaos, puis 20 héritiers. Mais c'est le chaos de Nietzsche, le chaos d'Anaxagore, le plein, le concassé. C'est-à-dire que, vous savez, vous avez une idée, là, quelqu'un vous envoie un texto et vous dit, il y a une fuite chez vous. Il n'y a plus de Maine de Biran. Hein. Vous comprenez ça? Il n'y a plus d'ouverture. Voilà. Eh bien, vous pouvez vivre avec des pensées, et c'est le cas du trauma. Dans le cas du trauma, vous avez une pensée qui est une telle blessure que vous ne pouvez pas la séparer de vous. Et comme vous ne pouvez pas la séparer de vous, ce que j'appelle l'expansion de la psyché, eh bien, d'une certaine manière, vous n'êtes même plus vous-même. Mais ça, ça existe. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que... Donc, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous dites, mais je pense que, par exemple, Condillac nous dit aussi quelque chose de juste. Et je pense que quand Maine de Biran dit que je suis ce que je sens, je ressens, eh bien, il y a quelque chose d'encore plus profond. C'est je suis quand je ne ressens pas ou quand je ne ressens plus. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans le discours médical à Bergerac, dans les dialogues avec Bichat, eh bien, il l'a vu dans la psychiatrie. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de traités de psychiatrie phénoménologique. Donc, il y a une actualité de Maine de Biran absolument étonnante, mais il faut le réinterpréter. Alors moi, je le réinterprète en fait un peu à partir de Deleuze, sa question du dehors, voilà, être au dehors de soi. Bien.
Des questions? Oui, votre conférence me fait penser à beaucoup de choses. Je ne comprends pas. Comment dirais-je? Effectivement, l'enfant touche. Effectivement, sa mère. C'est comme ça qu'il existe, d'abord, évidemment. Bon. D'un autre côté, tout ce que vous dites là pose la question de la réalité. Qu'est-ce que la réalité, en fait? Et qu'est-ce que le sujet par rapport à l'objet, en fait? C'est ça. Tout autour de ça. Or, il y a quand même des choses assez étonnantes. Quand vous méditez, par exemple, dans la méditation, ce que disent d'ailleurs beaucoup de bouddhistes qui pratiquent très longtemps, ce qui est mon cas personnellement, si je ne suis pas bouddhiste, mais je pratique ça aussi. Bon, bref. À un moment donné, vous ne savez plus où vous vous trouvez. Vous avez conscience que vous êtes vous, et vous avez en même temps une autre conscience qui vient vous envahir en même temps. Alors, ça pose également... Jean-Paul Sartre avait d'ailleurs bien décrit ça dans un de ses bouquins, je crois que c'est les mots et les choses, ou je ne sais plus quoi. L'essence de la conscience est d'exister à distance de soi. C'est précisément ce que dit Maine de Biran. Prendre l'habitude d'exister à distance de soi, c'est s'observer. Quand on s'observe, on prend conscience d'eux. On n'est plus du tout hors de soi. Donc c'est une gymnastique aussi quelque part. Et la gymnastique aussi consiste également, dans la méditation, à ne plus être conscient de son corps, alors qu'on commence par être concentré dans son corps. Et le fait d'être concentré dans son corps par l'esprit, vous projetez ensuite votre conscience dans n'importe quelle partie du corps, et vous pouvez séparer ensuite mentalement cette partie du corps de votre conscience pour réaliser que vous êtes un tout. Et ensuite, quand vous atteignez un certain degré par l'entraînement, vous n'êtes plus dans la conscience ordinaire. Donc vous n'êtes plus en même temps dans votre corps, mais vous êtes aussi ailleurs, indéfinissable. Dans un ailleurs qui est indéfinissable. Certains appellent ça Dieu, l'âme, ce que vous voulez. Voilà.
Alors, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais bon, là, on se situe dans une tradition qui est plus du tout celle de Ben de Biran. Parce que, si vous voulez, la tradition de Ben de Biran, c'est une tradition subjectiviste. On part du sujet et tout est centré sur le sujet. Alors, le fait que, d'une certaine manière, je puisse me mettre à distance de moi ou m'oublier moi-même, ça, c'est possible. Mais vous commencez toujours par dire je. Je me mets à distance de moi. Moi, je vous parle d'un cas où je ne peux même plus dire je parce que je suis dans un trauma. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas tout à fait la même expérience. Mais je suis tout à fait d'accord pour dire que il y a des possibles expériences de la conscience qui sont des expériences d'une conscience élargie ou d'une conscience qui s'oublie d'elle-même, d'une conscience d'une partie du corps qui donne la conscience du tout. Mais là, par contre, si on voulait en parler philosophiquement, il faut aller dans une autre tradition, une tradition bouddhiste. Vous voyez, encore une fois, la tradition bouddhiste, qu'elle a de propre, c'est de défaire le sujet de son jeu. Voilà. Donc, pour parler de quoi, enfin, ce que j'en connais, pour parler d'une immersion dans le cosmos, d'une certaine manière, dans le tout du monde, dans l'équilibre du monde. La tradition dans laquelle on est chez Maître de Biran, ça n'a jamais été de défaire le sujet de son jeu, puisqu'on découvre qu'on existe par notre jeu à cette période-là. Donc après, je dis simplement que quand on découvre à cette période-là qu'on existe par son jeu, il y a des exceptions, hein, autant d'exceptions, autant de modifications, c'est un leitmotiv d'un de mes livres, il y a des exceptions qui font qu'à un certain moment donné, je ne peux pas dire je. Voilà. Mais on est, vous voyez ce que je veux dire, vous, d'une certaine manière, dans votre remarque, qui est juste, vous recherchez l'oubli de vous-même, la distance de vous-même. Alors, ce n'est pas du tout le cas de Maître de Biran, et encore moins de Descartes. Au contraire, je suis attaché à moi-même, vous voyez. Mais je sens. Hein, Maître de Biran, on a bien dit, c'est je sens, je me ressens, donc je suis. Mais il arrive parfois que je sois détaché de moi. Voilà.
Ce que vous venez de dire me fait penser à une phrase de Jean-Paul Sartre. L'essence de la conscience est d'exister à distance de soi, et la distance nulle que l'être porte en lui-même, alors lui, il l'interprète comme ça, c'est le néant.
Mais Sartre et Bouddhiste, c'est pas l'esprit.
Non, c'est pas la même chose. Non, mais en fait, ça veut dire qu'il est très difficile de définir ce qu'est le principe de réalité. Voilà.
Ça existe, la réalité ?
La théorie des quantas remet en question complètement ces choses-là.
Dire que ce livre-là, c'est pas
ça. Oui, alors, merci. En vous écoutant, moi, j'ai pensé à l'après Maître de Biran et aux autres philosophes que je connais mieux que Maître de Biran, en particulier Paul Ricoeur. Et je crois qu'il résout peut-être une difficulté à comprendre la différence entre Descartes, entre Condillac, Maître de Biran, etc. C'est passé par Paul Ricoeur et soi-même comme un autre, où il y a l'idem ellipsé, qui explique bien qu'à la fois, on est exactement le même que quand on était né, mais en même temps, on s'est construit et on diffère. Hein, on est idem, mais on est aussi ipsé. Et comment est-ce qu'on se reconstruit? C'est par le récit. Or, quand je vous entends, vous dites toujours « je », vous insistez sur le « je ». Hein, et c'est bien quand on prononce le « je », c'est qu'on fait un récit de soi. Hein, c'est la philosophie de Paul Ricoeur, ça, le récit. Hein. En fait, et c'est comme ça qu'on arrive à se construire en une personne qui va agir, viser, vous savez bien, hein, la visée de la vue bonne avec ton nom, etc. Mais en se construisant par un récit. Et je trouve que cette idée d'avoir les deux, d'être idem, le même, se demander comment on est pareil qu'avant, parce que finalement on a les mêmes gènes, enfin, non, ils ont disparu, mais en fait ça fait rien. Et en même temps, on est différent, puisqu'on a vécu beaucoup d'autres choses qui nous ont modifiés. Et il n'y a qu'en se racontant qu'on peut raccrocher les différentes périodes et comprendre qui on est. Bon, mais alors, je ne connais pas bien Maine de Biron, mais je sais que Paul Ricoeur a démoli Descartes, dont je crois que c'est dans la deuxième étude ou dans la troisième étude, enfin, il est complètement démoli.
Il a bien résisté. C'était peut-être un homme déconstruit. Que sais-je ?
Alors, vous faites bien parler de Ricoeur. Vous savez que vous faites référence à la dixième étude de soi-même comme un autre. Vers quelle ontologie ? D'accord ? Où il y a l'ipsité et la même thé. Mais sachez que dans ce même texte, Ricoeur parle plusieurs fois de Maine de Biron. Plusieurs fois. Vous irez voir, hein, je cite, voilà, il parle du corps propre. Voilà, il ne parle pas de Maine de Biron à propos du récit. Je résisterai, moi j'ai bien connu Ricoeur d'ailleurs à l'époque, hein, juste avant sa mort, mais je résisterai quand même sur certains points. Je suis bien connu Ricoeur, mais je ne suis pas un herméneute, non, je suis un phénologue. Je pense que Ricoeur a tout centré sur la question de la parole, et c'est essentiel, du récit, mais moi je centre tout sur la question du corps. Donc, Ricoeur n'est pas un penseur du corps. Il va parler du corps justement à la fin, dans ce même qu'un autre, dans la dixième étude. Donc quand vous dites « oui, je suis le récit, le fait de me raconter que je suis le même et différent », ben, je ne suis pas à la fois le même et différent, parce que moi, quand je dis que je suis différent, je ne suis plus du tout le même. Je suis que dans le hors-phénomène, je suis étranger à moi-même, je ne me reconnais plus moi-même. Donc, il n'y a plus d'ipséité, il n'y a plus de même-té. Donc, ça, c'est mon hypothèse. Et la deuxième chose, c'est que vous pensez qu'il y a toujours du discours possible. Mais moi, je vais essayer de penser en deçà du discours. Et même pas en deçà d'un discours qui prépare le discours, mais quelque chose où il n'y a plus de discours possible, parce que l'idée même de parler n'existe plus. Il peut y avoir des cas, ce que j'appelle, où nous sommes obligés de dépenser. Alors, c'est un peu déridien. Pas dépenser de l'argent, mais dépenser. Il y a des cas où on ne peut plus penser. Donc moi, je suis... Et Ricoeur, j'aimais beaucoup. Mais Ricoeur, il est toujours en train de ménager la chèvre et le chou. Donc il y a ça, mais en fait, on est les deux. Et moi, je ne dis pas qu'on est les deux. Je dis qu'on n'est ni l'un ni l'autre, on n'est plus l'un, plus l'autre. Vous voyez et, voilà. Mais Maine de Biron n'est pas un penseur du récit. Voilà. Tout n'est pas récit. Quand je vous parle, tout à l'heure, j'ai dit le touchant touché. Je sens qu'il sent, je ne sens pas ce qu'il sent. Donc l'autre doit parler. L'autre parle dans les failles du corps. Bon, après, on peut discuter des heures là-dessus. Mais très bien, Ricoeur. Mais Ricoeur parle vraiment de Maine de Biron dans le texte que vous avez cité, hein, plusieurs fois.
Bien, Bernard. Que de folie ce soir.
Oui, moi, je ne suis pas du tout philosophe. Je vais faire deux remarques vulgaires ou deux réactions en vous écoutant. À propos de la pensée abstraite, la rattacher exclusivement à la pensée consciente me paraît tout à fait excessif. On a tous fait l'expérience de résoudre un problème de maths pendant la nuit en dormant. Ces derniers temps, j'avais des problèmes de calcul d'assemblage de menuiserie. Je les ai trouvés en dormant. C'est pas bon, une première remarque. Par rapport à la sensation, l'esprit a une position tout à fait ambivalente par rapport au corps. L'esprit considère que le corps est en dehors de lui, et en même temps, il ne peut pas s'en séparer, mais il ne sait pas trop quoi en faire. Et à propos, donc il navigue d'une position à l'autre, ce que vous décrivez très bien. Par rapport aux sensations, moi je trouve que ces philosophes ne font pas du tout référence, ou très peu référence, à l'entéroception, les perceptions internes du corps. Ils parlent tous du toucher, de la confrontation, vous faites le geste comme ça. Mais enfin, depuis que vous êtes né, vous avez eu mal aux dents, vous avez eu des coliques, il y a toute une information du monde interne, organique, mais que vous n'avez pratiquement que vous n'avez pas évoqué, enfin, ou à peine. Et on n'a pas besoin que le nouveau-né, il n'a pas besoin de se confronter avec le monde extérieur pour avoir des sens, des perceptions de son propre corps.
Ah bon. Quand je me sens dans la gorge, c'est exactement
ce qu'ils ont. Oui, même sans agir, l'esprit est tout à fait passif par rapport à des sensations qui lui viennent, qu'il n'a pas choisies. Ce n'est pas le résultat d'une action, il est dépendant.
Merci. Je dois dire qu'habituellement, après les conférences, on a rarement autant de questions. C'est dire la qualité de l'intervenant et de l'audience. Voilà. Bien. Une autre question ?
Assez ironique, vous avez évoqué Paul Ricoeur, on vient de l'évoquer, vous avez aussi évoqué Lévinas, vous avez évoqué Henri Gouillet, donc des penseurs chrétiens ou juifs, et protestants, bien sûr, qui ont cherché dans Maine de Biran, enfin, qui ont essayé de dégager sa nouveauté, sa pertinence. Or, in fine, aussi bien le christianisme, le catholicisme ou le protestantisme, donc ces deux confessions, ou le judaïsme, in fine, éprouvent malgré tout, pour le corps, une forme, non pas de mépris, mais enfin, le corps est tout de même ce qui vient après l'esprit, hein, plus fort que le glaive, mon esprit, etc. Et c'est quand même curieux de voir qu'un philosophe, comme Maine de Biran, est interpellé plus tard par des philosophes chrétiens, alors que finalement, ce que vous nous dites, c'est que toute sa philosophie, ou une grande partie de sa réflexion philosophique, provient d'une réflexion sur son propre corps, en définitive, et même, vous allez plus loin, sur son corps meurtri, sur son corps imparfait, sur son corps, si je puis dire, anormal, au sens du normal, anormal et pathologique.
Merci. Pardon.
Alors, premièrement, Maine de Biran était-il spiritualiste ou chrétien ? On n'en a aucune trace, sauf à la fin de sa vie. Ou à la fin de sa vie, d'ailleurs, il dit « plus on vieillit, plus on peut croire en Dieu ». Et donc, il finit par croire en Dieu parce qu'il sait bien qu'il vieillit. Donc, ça, voilà. Après, Maine de Biran n'était pas du tout pratiquant ou quoi que ce soit, rien du tout. Mais on a des traces. On voit, par exemple, qu'il va lire à la fin de sa vie l'Évangile de Jean, mais comme un texte philosophique, voilà. Ça, c'est oui. Par contre, quand vous me dites, alors, que Lévinas est un auteur juif, alors, tout ça, vous pouvez toujours dire ça, mais, bon, Ricoeur est un auteur chrétien. Quand vous dites que le judaïsme et le christianisme sont fondés sur l'esprit et un mépris du corps, là, vraiment, je ne peux pas vous l'accorder. Non, vraiment, non, parce que, si vous voulez, il n'y a rien de plus important que le corps dans le judaïsme. Lisez Lévinas, le propre du judaïsme, c'est l'attachement au corps, c'est l'attachement à la terre. Lisez Totalité infinie, les nourritures terrestres, la jouissance, etc. Et dans le christianisme, le verbe s'est fait chair, donc tout commence dans le christianisme par le corps. Donc si vous pensez que le judaïsme et le christianisme sont des religions de la pensée, vous pouvez évidemment vous étonner de quelque chose. Mais pour moi, il n'y a rien d'étonnant, parce que justement, le judaïsme et le christianisme sont des religions du corps. Voilà. Donc qu'il y ait une proximité entre Maine de Biran. Et quand je cite des auteurs, comme parce que c'est des religions du corps et que Maine de Biran parle du corps. Voilà. Mais je ne crois pas du tout qu'on puisse penser que le judaïsme et le christianisme soient des religions de la pure pensée. Je préfère dire Descartes, qui est beaucoup plus dans la deuxième méditation, j'existe indépendamment de mon corps. Jamais, ni dans le judaïsme ni le christianisme, vous pouvez dire qu'on existe indépendamment de son corps. Si je prends rien que le cas du christianisme, quand même, le christianisme, c'est quoi ? C'est de l'incarnation du corps, de l'eucharistie du corps, de la résurrection du corps, du corps. Donc, comment ? Oui, mais dans du corps, oui, même du corps, résurrection des corps. Après, je sais pas ce que ça veut dire, ou j'ai beaucoup de ça fait rien, mais je veux dire, c'est que du corps, que du corps, que du corps. Comme dit Marc Lassette, et le verbe s'est fait chair pour que la chair devienne verbe. Donc, c'est bien la question du corps. Alors, après, Maine de Biran, et là, c'est un point important dans ce que vous soulignez, a été vraiment repris par le spiritualisme. C'est vrai, entre autres par Bergson, mais qui n'était pas très religieux, mais aussi par Naber et bien d'autres. Voilà, parce qu'on a retrouvé chez Maine de Biran cette aspiration du corps. Mais c'est pas pour ça qu'il faut christianiser Maine de Biran, parce qu'il résiste tout à fait à ce type d'interprétation. Puis c'était un penseur personnel, vous savez. Ce qui est incroyable, c'est que on n'aurait jamais dû avoir cette conférence, parce qu'on n'aurait jamais dû savoir tout ça. On n'aurait jamais dû avoir tous ces livres. Et que lui, quand il est mort, il a dit Monsieur l'aîné, qui se débrouille avec mes cartons. Voilà. C'est quand même incroyable, cette modestie, cette indépendance par rapport à son œuvre. Et de penser qu'on puisse à ce point penser pour soi. Et pour moi, ça, c'est un modèle, je trouve ça magnifique, dans un coin de Bergerac comme Gracq.
Merci. Bon, je pense qu'il faut peut-être mettre un terme à la une question, Dominique.
Moi, je vais bien rabaisser le niveau. à la lecture de, enfin, à la lecture de comment Maine de Biran aurait interprété le passage chez le petit enfant du moi au jeu. Au jeu, vieux.
Eh bien, il aurait dit qu'il y a tout de suite un je ressens, même si je ne le formule pas. C'est-à-dire que, alors que chez Condillac, il y aurait un moi. Vous comprenez ou pas? Mais comme vous disiez, les perceptions, etc., c'est qu'en fait, au départ, chez Maître de Biran, l'enfant a conscience de son corps par lui-même, indépendamment des objets. On en parlait tout à l'heure. Voilà. Alors que chez Condillac, l'enfant aura d'abord conscience du monde extérieur, puis ensuite conscience de lui-même. Voilà. Donc, il faut discuter entre Condillac et Maître de Biran. Voilà. Mais il est clair que pour Maître de Biran, être homme, c'est le sentiment de mon propre corps. Voilà. Mais le sentiment de mon propre corps, ce n'est pas dire la capacité de dire je. C'est pas du parler, hein. C'est pas du parler, c'est le sentiment de son corps, voilà. Mais une conscience de son corps.
Voilà, bon, eh bien, on se posera la question de savoir si on est une fin en soi ou si on est une chose. Je pense qu'à l'heure actuelle, la question est très, très présente. Écoutez, on va en garder pour la prochaine fois. On va rester dans la mesure. On va remercier Emmanuel. Merci beaucoup. Un grand bravo pour tout ce que vous nous avez apporté ce soir.
Et... incroyable débat, bravo.
Ce qui veut dire que cette conférence est certainement la première d'une longue série, les rencontres de Grange Danse. Voilà. Nous allons maintenant passer à un aspect social de notre soirée. On va prendre un verre ensemble, un verre et demi. Et on pourra continuer la conversation. Voilà, pour les amateurs qui veulent nous aider à ranger les chaises, on ne veut surtout pas les priver de ce plaisir.